C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Kati.
Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat et malheureusement récurrent, les propos discriminatoires basés sur la beauté ou encore l'apparence physique, Gisèle.
Exactement, Pauli, nous avons illustré cette tendance à travers un exemple récent, la sélection de la représentante de la RDC au concours de beauté Miss Univers a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont lancé de discussions enflammées sur les origines supposées de la candidate. Originaire du Sud Kivu, certains commentaires ont insinué qu'elle serait davantage rwandaise que congolaise.
Effectivement, Gisèle, cette polémique soulève plusieurs questions. La première est de savoir comment les stéréotypes liés à l'apparence physique ou la beauté influencent-ils la perception de notre identité nationale ?
Ensuite, quels sont les impacts psychologiques et sociaux de ce discours sur les individus et les communautés visées ?
Enfin, comment définir des critères de beauté standard dans un pays qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, bordé par 9 pays voisins, peuplé de près de 100 millions d'habitants, répartis en plus de 400 ethnies différentes.
Pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Le premier est le député Gary Sakata, initiateur d'une proposition de loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Bonjour, monsieur Sakata.
Bonjour, madame.
Notre deuxième invité est Christian Moleka, analyste politique et initiateur du Politoscope, une plateforme dédiée à l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Christian Moleka.
Bonjour Pauli, bonjour Madame Gisèle.
Bonjour, merci à vous deux de vous joindre à cette réflexion. Avant de plonger dans le cœur de notre discussion, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scénette se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants, on l'écoute.
Amani, ils ont déjà affiché.
Quoi ? Affiché quoi ?
Oh, toi aussi.
Mais pas.
Je demande s'ils ont déjà affiché la candidate qui va représenter notre université à la compétition Miss Université.
Ah, Kitoko.
Mais
tu ne vas pas les croire, je te dis, ma chérie. Hein ? Figure-toi que c'est Mbuta qui a été élu.
Quoi ?
Non. Nana ici, ou Mbuta, Njo Walichagula.
Mbuta ?
Mbuta ?
Non. Erreur est ça.
Non,
mais nous ne pouvons pas accepter que notre université soit représentée par une fille sans aucune beauté.
Arrête.
Non.
Qu'elle arrête quoi?
Arrêtez.
Quand
c'est les 10.
Est-ce que toi t'es belle?
Toi
tu es beau.
Mais regarde, un homme qui parle de la beauté.
Donc vous voulez donc dire que non, la commission de sélection ne savait donc pas les critères exigés.
Tout simplement, ça c'est une insulte pour notre
insulte.
Université. Hein?
Cette fille-là, avec une tête pointue comme une flèche.
Vraiment.
Hein? Et en plus, noir comme du charbon, non? Vraiment, c'est elle qui mérite de nous représenter.
Atayomoko.
Mais Ata ni représenter.
Exact. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres filles de notre faculté qui ont une beauté authentique.
Voilà.
Et qui auraient pu être choisies.
C'est ça.
Mais choisir cette guénon au visage renfrôné, moi...
Là, vous exagérez.
Je suis pas d'accord.
Oui, là, vous exagérez quand même.
Exagéré.
Vous voulez donc insinuer que les filles de votre faculté ont le monopole de la beauté.
Oh, oui. Ah,
regarde, Chito, comme elle est belle.
Qui est belle?
Elle est belle.
Elle se regarde dans un miroir. Quittez-la. Et vous permettez d'insulter Mbuta de cette façon.
Oh.
Comme si sa morphologie était empêchée.
S'il te plaît, Mbouille. N'essaie pas de défendre l'indéfendable, mon ami. Hein?
Regarde même la forme de sa taille.
Hey. On dirait un guignol.
Non, c'est la cabine.
T'as ça qui jumbo.
Non, pas ça qui est banal.
En tout cas, vraiment bien trouvé. Guignol.
<Guignol. rire> Il y avait beaucoup d'autres filles de notre faculté qui ont une beauté authentique et qui auraient pu être choisies, déclare l'un des étudiants dans cet extrait de notre sketch radiophonique. Monsieur Sakata, dans un pays aussi diversifié que la République démocratique du Congo, comment juger et évaluer de la beauté d'une femme, entre guillemets, typiquement congolaise?
Bon, ben vous savez, monsieur le journaliste, une telle question est délicate, la beauté elle-même étant relative. C'est exactement en parlant même de la beauté que l'on peut dire de manière assez vague qu'il s'agit là aussi d'un critère constituant un délit de faciès. Parce que ce qui peut être beau pour vous peut ne pas l'être pour moi et vice-versa. Mais que l'on doit admettre que si je dis que ça c'est beau, que vous puissiez admettre que c'est mon point de vue. Voilà. Donc, à mon avis, il ne doit pas y avoir des critères objectifs, ni de critères vraiment généraux qui déterminent que telle est belle ou telle est beau et que telle est laid ou laide, quoi, en fait.
Vous estimez donc que ce type de rhétorique cache plutôt mal des formes de discrimination contre certains compatriotes dont on estimerait, entre guillemets, que la morphologie ne correspondrait pas au standard type congolais?
Oui, tout à fait. C'est manifestement une grave discrimination. Parce que si l'on en revient au principe religieux et de croyant, c'est que lorsque l'homme et la femme s'accouplent, ce qui en sort, c'est pas l'effet des deux. C'est un peu un effet surnaturel, de sorte que dès que ça sort, on ne peut pas commencer à avoir des appréciations dans le sens de ridicule ou autre. Et puis, parce que comme vous le savez, du point de vue international et même national, le délit de faciès, c'est outre même le physique ou l'apparence, mais c'est également, ça peut également porter sur le style alimentaire, le style vestimentaire ou la couleur de la peau, ou même la façon de parler en fait aussi, hein. Ça fait partie du délit ou des discriminations liées au faciès. Par exemple, les albinos, le fait de les considérer comme tels peut parfois constituer une discrimination de faciès, les pygmées et tous les autres. Donc voilà un peu de manière générale, quoi.
Alors, Christian Moleka, comment les stéréotypes sur les apparences physiques, la beauté, le faciès, se manifestent-ils dans le discours public et sur les réseaux sociaux?
Ben, ce sont des éléments, je veux dire, structurants de discours d'exclusion. Lorsqu'on veut construire une polarité politique, en se fondant non pas sur je dirais, des contenus programmatiques, mais en le construisant autour des clivages qui peuvent être des clivages ethniques ou sociologiques, eh bien, on s'appuie généralement sur une construction phénotype de ce qu'est le Congolais, de manière générale. Qui est Congolais? On donne des éléments phénotypes, non pas des éléments qui vous permettent de vous reporter à des valeurs, mais à des références sociologiques. Ça peut être la couleur de la peau, ça peut être la longueur du nez, ça peut être la façon de s'alimenter. Et ces éléments phénotypes vous construisent un discours politique. Et malheureusement, ce genre de discours est clivant, parce que l'identité, par nature, est un élément d'exclusion. Lorsque je construis une identité, c'est pour me différencier de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on utilise des éléments identitaires comme élément de discours, eh bien, on ne construit d'exclusion. Ces genres de discours se construisent généralement quand les acteurs travaillent à saisissonner l'électorat en construisant les éléments d'exclusion et donc d'exclusion de certains acteurs.
Et malheureusement, on le retrouve sur les réseaux sociaux également.
Effectivement, parce que cette forme de polarité est devenue un peu l'essence du débat chez nous, où on n'aborde pas des questions de fond, où on réduit tout au faciès, on réduit autour des phénotypes. Et malheureusement, avec l'influence des conflits armés qu'on a eu à l'Est, cette question s'est généralisée dans tout le débat social. Que ce soit un joueur de football, on cherche toujours à voir le faciès de l'ennemi dans le visage. Et cette façon simpliste d'aborder des questions complexes est très dangereuse, parce qu'au Congo, nous aimons beaucoup simplifier les choses en présentant des raccourcis qui peuvent permettre de mieux à décrire des phénomènes plus complexes.
Merci beaucoup, Christian Moleka, pour ces éclaircissements. Je vous propose à présent de passer au deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. Cette fois-ci, on aborde les dangers de ce type de discours, souvent discriminatoire, basé donc sur le faciès ou la morphologie. On écoute.
Thank you.
Mais pour qui vous vous prenez
Oh.
Kekito qui a l'air d'une boule. Ou encore ces filles de votre faculté qui sont comme des nts. Banababakashi, vitou, mpampanou.
Tu m'insultes.
Donc vous vous croyez être plus belle que les autres pour pouvoir représenter l'université.
De toutes les façons, nos filles sont plus belles que celles de votre faculté qui ont des jambes sans forme comme des pilons. Migulu pango.
Banababakashi, D'ailleurs, je vous rappelle que ces concours, il ne s'agit pas seulement de la beauté, mais également de l'intelligence.
Quelle intelligence?
Oui,
l'intelligence.
Est-ce que vous êtes intelligente?
Moi, je suis intelligente.
Écoutez, vous croyez que ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Miss University?
Oh, désolé. Oui, désolé.
L'intelligence, ça compte.
Mais ce n'est vraiment pas dans votre faculté qui est un rassemblement des filles les plus moches du monde qu'on devrait choisir celle qui va nous représenter.
Voilà. Vous savez quoi? Maintenant, je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à grandir normalement.
Oui,
parce que le syndrome de la haine et de la jalousie a envahi votre corps. On dirait que ça a bloqué votre croissance et votre intelligence.
Attends,
t'as dit quoi?
Qu'est-ce que tu dis?
Tu
es malade, toi, dans ta tête.
C'est toi qui es malade.
Quoi? Toi aussi.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ces cris?
Quel cri?
Je te demande si vous avez entendu ces cris.
Non, mais qui ça?
On dirait que c'est Mbout.
C'est Mbout.
Non, mais c'est elle.
Voilà.
J'ai trop mal.
Qu'est-ce là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Donc, vous vous croyez être plus belle que les autres pour pouvoir représenter l'université, demande l'un des étudiants dans le précédent extrait. Monsieur Sakata, lorsqu'on fait référence à la beauté physique ou à la morphologie de nos compatriotes, à quel danger potentiel peut-on aboutir du point de vue de l'unité et de la cohésion nationale?
De manière générale, lorsqu'on commence à distinguer le beau et le moins beau, l'intelligent et les salauds, et ainsi de suite, en passant par tout cet exercice, cela crée naturellement une forme de détérioration du climat social et finalement de la sécurité tout entière. Et cela engendre dans le chef des victimes une forme de rancœur, laquelle rancœur cherche plus tard une forme de revanche. Et fatalement, les gens finissent, du moins pour ceux qui ont le cœur faible, finissent par faire un repli sur soi, ou en certains cas une forme de repli identitaire pour s'attaquer au camp adverse. Et il y a donc la fragmentation totale de la société et la division, ou plutôt les divisions entre membres de la société, ce qui devient fatal pour tout l'ensemble, pour la cohésion nationale et même l'unité, quoi.
Vous évoquez donc une forme de repli identitaire comme conséquence de ce type de propos polarisants. Peut-on considérer qu'il y a une tendance dans notre pays à discriminer certains compatriotes considérés comme ayant une apparence entre guillemets différente, Monsieur Sakata?
Oui, fatalement. Moi, de tout temps, je trouve qu'il y a une grave injustice par le fait qu'on fait souffrir certains compatriotes, je puis dire de manière double. Ils souffrent déjà du fait que le pays se trouve être attaqué par des pays voisins, eux qui se considèrent comme étant authentiquement congolais sont ensuite attaqués par leurs propres frères, de sorte que ces compatriotes deviennent comme des apatrides de manière vraiment injustifiée. Il y a donc un danger, qu'il s'agisse bien de ceux qui sont victimes ou des auteurs. Cette situation n'est pas très normale. Qu'il s'agisse même des originaires des fameux pays voisins qui nous agressent, les simples citoyens n'y sont pour rien. C'est plutôt l'œuvre des politiques qui ont des objectifs à bien précis à atteindre que ces pauvres citoyens ou ces pauvres Africains sont en train de subir les affres des autres. Donc, dans tous les cas, les différentes discriminations qui sont proférées sont totalement injustifiées, aussi bien à l'égard des Congolais qu'à l'égard même des ressortissants de ces pays qui ne sont que des simples citoyens.
Christian Moleka, lorsqu'on lit la beauté ou l'apparence physique de certains groupes ethniques de notre pays pour remettre en cause leur nationalité congolaise, quel impact psychologique et sociaux de ces discours hein? Ces discours peuvent avoir sur les individus ou les communautés visées?
Généralement, lorsqu'on discrimine, on a tendance à réduire l'importance de la personne. Mmh. En présentant, par exemple, des caricatures assez grotesques sur la personne, sur la forme, la taille du nez, sur la taille de son corps. Et ces genres d'éléments sont réducteurs. Et donc, pour une communauté qui se sent particulièrement visée, ça crée un réflexe défensif. Et on a tendance donc à se protéger par une forme de communautarisme qui vous oppose à ce qui vous attaque. Conséquence, vous avez des conflits communautaires qui naissent du fait qu'on construit un vous et un nous basé par un rapport de psychologique de considération, ceux qu'on se considérant comme supérieurs à d'autres, ceux qu'on se considérant comme meilleurs à d'autres, et donc ça finit généralement dans un conflit ouvert. Et ces genres des problèmes peuvent se transmettre de génération en génération dans la perception des rapports sociaux entre le vous et les nous, dans la perception également, je dirais, de l'équilibre des forces entre le vous et nous. Malheureusement, ça finit généralement dans la confrontation.
Pour vous, Christian Moleka, qui analysez la rhétorique, les discours au niveau du cyberespace, comment est-ce que cela se traduit dans l'espace numérique, sur les plateformes digitales, notamment les réseaux sociaux?
Dans les réseaux sociaux congolais, il y a, je dirais, nous suivons un élément qui s'appelle stigmatisation ethnique, qui apparaît de manière assez phénoménale autour des questions de polarité. Par exemple, quand vous avez, pendant la semaine dernière, des tensions entre deux influenceurs, d'une journaliste et une influenceuse sur les réseaux sociaux, on a vu ces relents ethniques revenir en termes d'attaques adressées à une communauté. On a tout le temps ces moments de pic liés au contexte politique ou sociopolitique du pays. Et c'est fort dangereux parce que vous voyez la teneur que prend le discours de stigmatisation ethnique en ramenant généralement de manière assez indictive la critique d'une personne à l'ensemble de la communauté.
Ouais. Comment cela se traduit-il de manière spécifique dans le cyberespace?
Il n'y a pas de grande différence parce que le cyberespace, ce n'est que la projection du débat citoyen que nous avons dans la vie ordinaire. Peut-être que c'est moins connotatif de la majorité des Congolais parce que très peu de Congolais sont sur X, mais c'est la projection de la notre manière de voir les choses. Et quand vous regardez comment parfois nous réagissons aux critiques, nous avons la tendance à réagir au premier degré, à s'attaquer non pas aux idées mais à la personne. Et cette tendance, à chaque fois lorsqu'on discute ou qu'on s'oppose dans les idées, de s'attaquer à la personne, ramène régulièrement sur des questions de phénotypes, des stigmatisations ethniques, d'homophobie, parce que la critique, ce ne sera pas contre tes idées, ce sera contre ta personne.
Merci encore une fois Christian Moleka pour ces analyses. Hein. Écoutons à présent le troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique qui nous amène à réfléchir aux pistes de solutions possibles. On écoute.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bougez-moi. Bouta.
Mais les amis, je quittais la salle de classe comme d'habitude. Quand du coup des étudiants m'ont attaqué, ils m'ont attaqué.
Oh là. Ah bon?
Il m'accuse de ne pas mériter le titre de Miss Université à cause de ma tête. Je comprends pas.
C'est grave.
Kitogo, tu vois ce que tu as fait? Du moment là, tu es du moins. Tout ça, c'est à cause de ces langages que tu as tenus tout à l'heure. Oui.
Langage.
Mon frère Djamba n'a eu que ni bon été pour représenter l'université ou tout.
Ah non, attendez. Je n'arrive pas à croire que ce soit vous, mes camarades que j'ai côtoyés depuis des années, qui deviennent mes ennemis.
Écoute.
Non, mais vous m'insultez pour ma couleur de peau?
Non, mais écoute.
Juste parce que je suis candidate au concours de Miss Université.
On ne savait pas que ça allait arriver jusque-là. Enfin,
bon. Comment ça, vous ne savez pas?
Écoute, on est vraiment désolé. C'est ça, non?
Non, en tout cas, moi, je suis désolé. Moi, je ne savais pas.
On est vraiment désolé. Pardon, on n'a jamais imaginé que ça pouvait aller jusque-là.
Oui, c'est juste qu'on n'avait pas été content de voir que ce n'était pas quelqu'un de notre faculté qui a été choisi.
C'est ça.
En tout cas, moi, je suis désolé.
Et c'est comme ça que vous inventez ce langage sur moi, que j'ai une tête de flèche ou que je suis noire comme un charbon.
Non, qui a dit ça?
C'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'on vous avait dit.
Non, on n'a pas dit ça.
Mais elle est brune, non?
Oui, moi je n'ai pas.
Jolie d'ailleurs, très belle.
Les gars, s'il vous plaît, hein. Tout d'abord, la beauté est relative. Mm. Et puis, chaque personne ne pouvait pas quand même trouver sa candidate. Mm. N'est-ce pas? Mm. Mm. Et d'ailleurs, est-ce que Miss Université ne devrait pas représenter tous les groupes de l'université?
Oui.
Les gros, les petits, les grands, les minces.
Les petits, si je peux ajouter, oui. Les petits. Voilà.
Et comme nous, les métiers aussi, oui, oui.
Ah, voilà. C'est ce que je croyais aussi, mais apparemment, ce n'est pas le cas pour certains.
Non,
calme-toi.
Je ne savais pas.
Calme-toi. Écoutez, n'est-ce pas qu'on peut être réputé d'être belle, mais sans avoir tous les critères qui valorisent notre université au point de vue comportemental?
En tout cas, vos propos séparatistes contre moi alimentent la haine au campus. Avec des graves conséquences.
Non, ça va s'arranger.
Excusez-moi, ça va plus se répéter.
On est vraiment désolé, on n'a jamais imaginé que ça pouvait aller jusque-là, finit par admettre l'un des étudiants dans ce dernier extrait. Monsieur Gary Sakata, quelles mesures législatives pourraient être mises en place pour combattre les propos discriminatoires basés sur la morphologie, l'apparence ou encore les stéréotypes de beauté?
Moi, je propose effectivement qu'il y ait d'abord une loi cadre. Mmh. Et cette loi cadre doit comporter plusieurs phases, dont le plus important, c'est que une telle loi doit comporter des mesures préventives contre les actes discriminatoires, notamment à ceux liés au faciès. Mm-hmm. Et dans ces mesures préventives, moi je vise l'éducation des citoyens par rapport aux attitudes liées à la discrimination sur les faciès. Et également, il y a aussi plusieurs autres mesures qui peuvent être prises. Mm-hmm. À part les mesures préventives, je vois également, et ensuite lorsque ces mesures ne sont pas vraiment efficaces ou n'aboutissent pas, on passe plutôt aux mesures répressives, et lesquelles doivent comporter des sanctions dissuasives, puisque les mesures préventives n'auront pas atteint leur objectif. Mm-hmm. Les sanctions doivent être dissuasives pour contrer les citoyens ainsi que les organismes auprès desquels dépendent de pouvoir comprendre qu'ils ont vraiment été sanctionnés, soit pénalement par l'emprisonnement ou encore par le paiement des normes amendes. Ça permettra à faire en sorte que les citoyens puissent un peu reculer devant les actes des xénophobes. Troisièmement, ce que moi je suggère, c'est d'avoir des mesures, des signalements efficaces. Donc, ces actions de signalement qui doivent être efficaces résultent notamment du fait de... ça peut être peut-être une cellule d'écoute ou des alertes. Et ceci doit être fait principalement d'ailleurs par la création d'une organisation qui promeut les actes antidiscriminatoires, donc une indemnisation permanente. Mm-hmm. Qui en premier sera l'alerte, quand bien même c'est également le rôle de tout citoyen, mais que cette organisation permanente fait le signalement des alertes, constitue également une cellule d'écoute pour les personnes qui ont été victimes. Donc voilà un peu de manière globale ce que je peux dire du contenu de la proposition de loi ou de la loi qui peut régler cette question.
Merci beaucoup, monsieur Sakata. Les propositions que vous avancez semblent pouvoir s'appliquer plutôt dans le monde réel, dans la vie de tous les jours. Qu'en est-il de leur applicabilité au niveau du cyberespace, qui constitue de plus en plus un espace où les Congolais interagissent et s'expriment de plus en plus?
Bon, mais comme l'a dit tout à l'heure Christian, c'est que ce qui se passe sur le cyberespace, c'est ce qui se passe en réel. Mm-hmm. Et bon, et maintenant, si pour revenir à votre question, je dois y répondre, je dis que l'institution antidiscriminatoire auquel je fais allusion va assurer la veille, donc le contrôle va faire une sorte de veille sur les actes antidiscriminatoires, que cela soit dans le réel, donc tel que nous sommes, ou sur les différents forums de cyber internet et consorts. Donc voilà, ça sera le rôle de cette institution qui va assurer cette veille, bien entendu. Tous les autres services, notamment le parquet et consorts, peuvent y concourir. Mais il faut nécessairement une administration spécifique pour ce faire en vue d'arriver à un résultat efficace.
Merci, Monsieur Sakata, pour ces propositions. Christian Moleka, au niveau du Politoscope, quelle initiative votre plateforme propose-t-elle donc à la population pour encourager des discours plus inclusifs et respectueux, et comment vous parvenez aussi à convaincre cette population?
Déjà, au niveau du Politoscope, nous monitorons toute forme de discours discriminatoires à travers nos weekly reports et nos rapports journaliers. En même temps, nous travaillons aussi à l'éducation média parce que nous aimerions bien rencontrer les Congolais et discuter autour notamment de l'e-citoyenneté. Internet est un espace de citoyenneté, mais encore faut-il éduquer la citoyenneté en ligne. Comment se fait le débat? Comment construire la qualité du débat autour des, non pas des attaques, mais des idées? Donc il y a un travail d'éducation aux médias, mais également au débat public qui doit se faire. Et donc au niveau du Politoscope, nous poussons à la fois dans le monitoring, mais également dans la sensibilisation sur le discours. Dernièrement, on a fait une activité d'ailleurs avec la MONUSCO, le service des affaires civiles, avec les étudiants de l'ISP Gombe, où nous avons présenté par exemple le cas des discours discriminants qui ont commencé en Grande-Bretagne et leur incidence dans la société. On a tendance à croire que ce qu'on crie sur les réseaux n'ont pas d'impact, alors que la violence virtuelle est réelle. Et donc on est en train de lancer une campagne qui s'appelle « Violence virtuelle, violence réelle » pour montrer qu'il y a de l'impact dans la vie réelle de ce que l'on écrit en ligne. On a tendance à penser que ça ne pèse pas, et pourtant ça pèse. Et donc on a commencé le premier numéro qui a été présenté aux journalistes de Gombe. Là, on est en train de faire d'autres sketchs qui vont davantage éduquer à une forme de responsabilisation dans ce que l'on écrit, parce que ça a de l'impact dans la vie réelle des gens.
Et justement, quel impact vous recevez à travers, à la suite de ces campagnes que vous menez, ces campagnes de sensibilisation à l'intention du public congolais?
Certains sont étonnés, parce qu'ils ne prennent pas la mesure de ce que peut représenter cette menace. Lorsqu'on est dans le confort de son salon, dans sa chambre à coucher, qu'on a un téléphone, on a le sentiment d'être dans l'anonymat et de ne pas être responsable des actes qu'on pose. Et donc, à un moment donné, vous les ouvrez les yeux sur les risques et les conséquences des actes qu'ils posent. Et ça vous étonne de le voir étonné de l'impact que peut avoir tel ou tel petit propos. Donc, il faut travailler sensiblement à éduquer les Congolais à l'usage des réseaux sociaux, à l'usage des médias et surtout au débat public. Comment on discute ailleurs, il existe même des institutions spécialisées dans le débat public qui suivent les débats publics pour voir quel type d'informations on met à la portée des citoyens. Est-ce que la télé chez nous, la radio, ne participe pas non plus à cette violence dans les discours par les débats publics? Donc il y a de telles choses qu'il faut mettre en place pour permettre aux citoyens également de s'améliorer dans la qualité de débat.
Merci beaucoup Christian Moleka pour cette dernière intervention. Merci également à vous Gary Sakata pour vos contributions à cette discussion. Ces réflexions nous rappellent combien de fois derrière chaque visage, chaque apparence, se cache un être humain et qu'il est donc essentiel de respecter cette dimension.
En effet, Pauli, nous vivons dans une société multiculturelle où la diversité doit être considérée comme une richesse. Cependant, lorsque nos différences morphologiques exposent certains d'entre nous à la discrimination et au discours de haine, c'est la cohésion nationale qui est fragilisée.
À l'heure où les réseaux sociaux amplifient nos paroles et où chaque mot peut avoir des répercussions considérables, il est essentiel que nous prenions conscience de l'impact de nos propos. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour faire de l'espace public un lieu de dialogue constructif et non de discrimination ou de confrontation.
Pour conclure, chers auditeurs, n'oublions jamais que les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire mais aussi détruire. Soyons donc responsables dans nos manières de communiquer.
Merci encore une fois à nos invités et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire est proposé par l'ONG La Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net.
N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, et SoundCloud de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci à tous et au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capital.